Et nouvelle semaine de rendez-vous pour découvrir encore une fois le Limousin comme d'habitude. Et nous allons découvrir la maison des sourds tout au long de cette semaine, l'univers d'ailleurs des déficients auditifs, avec notre invité David Lacroix qui est président de l'association de la maison des sourds de la Haute-Vienne, que nous allons donc tranquillement découvrir. D'ailleurs, pour commencer, un mot d'historique, hein, c'est une association qui n'est pas toute jeune, qui date de plus de 100 ans maintenant et qui a d'ailleurs changé de nom au fil des années.
Oui, effectivement, c'est une association qui a plusieurs fois changé de nom et qui regroupe les personnes sourdes qui étaient scolarisées à Limoges à l'époque, puis qu'il y avait une école des sourds. Certaines personnes sourdes venaient de Poitiers, d'autres de Bordeaux, un petit peu partout en France. Et c'est une association qui a toujours existé jusqu'à l'heure actuelle. C'est très important puisqu'en 1880, la langue des signes était interdite et les personnes sourdes y pensaient se retrouver dans un endroit, que ce soit dans un bar ou dans un restaurant. Et au fur et à mesure du temps, ils ont décidé de créer une association par Louis Aimable Doria, qui est le président fondateur de cette association, qui lui-même était scolarisé dans une école sourde. Et puis jusqu'à l'heure actuelle, les rencontres se font régulièrement, mensuellement, mais certains membres ont pris l'habitude de rester enfermés dans cette association. C'est pourquoi à l'heure actuelle, moi-même en tant que président, j'essaye de faire découvrir la cause des personnes sourdes vers la société qui ne connaît pas.
C'est l'importance de l'intégration, c'est un mot très important pour vous.
C'est vraiment une cause très mal connue. C'est un handicap très invisible et donc certaines personnes pensent bien faire alors que ce n'est pas comme ça. Donc voilà, nous essayons d'intégrer dans la société.
Ça veut dire que le handicap auditif est moins bien traité que les autres handicaps ?
Plutôt maltraité, c'est peut-être le bon terme, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, les déficients auditifs, il suffit de mettre des appareils auditifs ou de leur faire opérer par un implant cochléaire, etc. Alors que certaines personnes ne souhaitent pas ça, ils souhaiteraient simplement être considérés comme un citoyen à part entière. Certaines personnes n'acceptent pas la notion de sourd, puisque ça fait référence à une expression française, être sourd comme un pot, alors que le mot sourd, c'est tout simplement une identité, un état d'être qui est totalement différent qu'une personne entendante.
Alors on verra dans notre prochain rendez-vous justement quelle est cette population, combien de personnes ça représente. Simplement pour revenir à l'association, à la Maison des Sourds, quelles sont les différentes vocations, les différents buts de l'asso ?
Le but de l'association, c'est de favoriser la langue des signes, développer les rencontres sourds-entendants et bien sûr combattre la cause des personnes sourdes et non-entendantes.
Et ça veut dire que vous êtes combien ici pour gérer toutes ces activités ?
Alors disons, nous avons un conseil d'administration, donc déjà on est à peu près une dizaine. Après il y a plusieurs secteurs, donc chaque secteur représente un petit bureau qui organise des activités, etc. Après, sur le plan politique de représentativité, nous sommes à peu près 3 ou 4 personnes à devoir représenter en face aux instances.
Et quand on parle de politique, il y a le président d'honneur, c'est le cas de toutes les associations, monsieur le maire de Limoges, Alain Rodet. Ça veut dire qu'il y a une vraie considération pour votre association et pour ce handicap, notamment en Limousin et à Limoges par exemple, où est installée la Maison des Sourds.
Oui, c'est très important de travailler en relation avec la ville de Limoges, puisque à l'intérieur de la ville de Limoges, certaines personnes sont sensibilisées à la cause des personnes sourdes et malentendantes, tout comme, je cite un exemple, madame Josette Balanche, la conseillère municipale, ou alors monsieur Gaillard. Nous travaillons en relation très étroite pour nous faire entendre. C'est un soutien très précieux, puisque si ces personnes-là n'étaient pas présentes, je ne pense pas trouver une bonne solution pour faire avancer.
Tout au long de cette semaine, nous sommes installés ici à Limoges, auprès de la Maison des Sourds. Je dis auprès parce que nous sommes sortis des locaux, on profite un peu du beau temps, hein. Le soleil est là. Nous sommes ensemble pour parler de cette association importante avec son président David Lacroix. Avant de parler des activités, tout ce qui est fait par l'association, on va peut-être parler de la population, des déficients auditifs, sourds, malentendants, comme on les appelle. Ça représente quel pourcentage en France et en Limousin? On a des chiffres précis?
Alors en France, ça représente 10% des personnes sourdes et malentendants. Alors dans la catégorie des personnes sourdes et malentendants, il y a des devenus sourds, comme les personnes âgées à fur et à mesure de l'âge. Il y a des sourds de naissance, mais ça représente jusqu'à 10% des personnes sourdes et malentendants en France.
Ça veut dire que par rapport à ce qui est fait pour vous aider, ça paraît dérisoire?
Ça nous paraît dérisoire puisque statistiquement, un enfant sur 1000 naît sourd. c'est quand même quelque chose à bien tenir compte. Puisqu'après, ce qui est important, c'est le maillage des structures pour pouvoir bien l'accueillir, pour pouvoir bien la considérer, pour pouvoir bien l'accompagner dans la scolarité et dans la vie active.
Ça veut dire aussi qu'on traite des cas différemment quand on est sourd de naissance ou quand on le devient?
Oui, exactement. La prise en compte est totalement différente. Celui qui est devenu, bien sûr, il a connu le monde du son, donc qui fait qu'il a une identité un petit peu différente, alors que celui qui est né sourd, alors, il vit avec l'handicap, il ne souffre pas de ce handicap, mais il le vit avec. C'est là où qui fait la différence et la prise en compte devient différente.
Ça veut dire que vous travaillez sur un plan technique, apporter des aides techniques, purement techniques, et puis un accompagnement aussi humain, psychologique.
Exactement, c'est ce qu'on fait avec un collectif que nous avons de plusieurs associations, comme les Singuliers Associés, qui est une compagnie théâtrale qui travaille avec les personnes sourdes, voire même aveugles, malvoyantes. Ensuite, l'URAPEDA, un service d'accompagnement pour les personnes sourdes dans le milieu du travail. Ensuite, le Centre d'information de surdité, qui est bien sûr un centre qui explique un peu la surdité de manière générale. Et nous travaillons tous ensemble pour aider les personnes sourdes à mieux s'intégrer dans la société.
Alors, on a parlé de la prise en compte politique, mais tout simplement dans la société tous les jours, quelle est la place de la personne sourde ou malentendante?
Alors, c'est vrai que comme c'est un handicap invisible, donc déjà on ne nous voit pas. La deuxième chose, c'est comme tout handicap, on a plusieurs situations discriminatoires, mais une sorte de double handicap, puisque déjà on a le handicap, la surdité, donc déjà le manque d'information de beaucoup de choses, et le deuxième handicap, c'est de la communication, puisque nous ne pouvons pas communiquer naturellement avec la société, qui fait que parfois la société a tendance à rejeter, à ne plus vouloir faire un effort de s'adapter, et ce qui fait que la personne sourde doit se sentir un peu exclue.
Ça veut dire qu'on n'ose pas finalement, on ne sait pas trop comment se comporter avec vous, donc on préfère ne pas rentrer en contact tout simplement.
Moi je pense plutôt que c'est la méconnaissance de l'handicap, c'est le manque d'information. Et c'est important de sensibiliser à le plus jeune âge la cause de la surdité, qui par l'avenir pourrait mieux se comporter devant les personnes handicapées.
Très concrètement, dans une vie quotidienne, là en Limousin, il y a de grosses difficultés pour les personnes sourdes et malentendantes sur des choses vraiment qu'on effectue nous bêtement sans y penser. Vous, ça vous pose, il y a encore des choses qui vous posent de gros problèmes?
Alors oui, il y a encore des choses qui nous posent de gros problèmes, notamment à l'accessibilité des établissements recevant du public. Même dans les services publics, je cite un exemple, les impôts. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on déclare les impôts sur Internet. C'est une grande avancée. Mais quand on a un problème de ce changement de situation et qu'on aimerait bien rencontrer un conseiller, ben les services des impôts n'ont pas mis en place un dispositif accessible. Ce qui fait que nous sommes un petit peu mécontents de voir que certains établissements recevant du public ne font pas d'efforts pour rendre accessible. Alors, nous sommes affiliés à une Fédération nationale des sourds de France. Donc, cette association, bien sûr, fait remonter sur le plan gouvernemental notre cause. Et sur le plan local, voire même régional, je participe à différentes commissions d'accessibilité. Et là, bien sûr, j'essaye d'aider, d'apporter des solutions adaptées pour les personnes sourdes. Alors, bien sûr, on parle sur un point de vue humain, mais parfois on parle sur un point de vue lucratif. Et bien sûr, à chaque fois, on me pose la question, combien vous êtes de personnes sourdes, etc. Alors qu'on met en place une accessibilité telle que la loi l'avait imposée.
Il faut penser à l'aspect humain avant de penser à l'aspect technique ou financier.
Exactement.
Notre troisième rendez-vous ici auprès de la Maison des Sourds. Nous sommes dans l'univers évidemment des déficients auditifs, sourds, malentendants, avec le président de l'association, David Lacroix. Un mot sur la langue des signes. Quand on parle des malentendants, des sourds, on pense forcément langue des signes. C'est une grosse partie aussi des activités que vous allez gérer en collaboration.
Oui, effectivement, l'association de la Maison des Sourds est en collaboration avec le Centre de formation de langue des signes du Limousin, très récemment créé, mis en disposition des cours de langue des signes. Alors, il y a plusieurs moyens de l'apprendre, que ça soit de manière intensive, c'est-à-dire un module de 30 heures calé dans une semaine, ou alors un cours hebdomadaire, donc le soir à partir de 18h jusqu'à 20h. Ce cours, il est ouvert à tout le monde. Il permet de plonger dans la culture sourde, essayer de comprendre pourquoi les sourds réagissent de telle manière, pourquoi il y a telle et telle activité, où sont les différents problèmes des personnes sourdes, et bien sûr, tout en apprenant la langue des signes sur le point de vue linguistique. la langue des signes, elle peut être très pratique dans la société. Par exemple, deux personnes qui connaissent la langue des signes, ben, s'ils se retrouvent l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, ben, à travers la vitre, ils peuvent très bien s'exprimer, dire quelques mots. Et c'est vraiment très marrant de pouvoir utiliser la langue des signes pour des situations comme ceci.
Ça peut servir à tout le monde, on l'a bien compris. C'est facile à apprendre cette langue des signes.
Alors, ça dépend des gens, hein. Certains sont motivés ou pas. Pour moi, elle est assez simple à la pratiquer, puisque déjà, il n'y a pas de conjugaison. Mais il faut simplement rester fidèle à notre façon de penser. Parce que souvent, les personnes non-entendantes, quand ils rentrent dans la langue des signes, ils ont tendance à comparer avec les langues orales. Or, la langue des signes, la syntaxe n'est pas du tout la même. C'est plutôt comme si c'était un montage vidéo. C'est d'abord, on doit expliquer où est-ce qu'on se trouve, après, dans quel moment de la journée, après, qui sont les personnages dans la pièce, et qu'est-ce qu'ils font et tout.
Ça veut dire qu'il y a une langue des signes différente en fonction des individus aussi?
Comme la langue parisienne et la langue marseillaise, c'est pas tout à fait pareil, l'accent est un petit peu différent. Mais la langue des signes, c'est un petit peu pareil, il y a certaines variantes régionales, on appelle ça comme ça. Oui, puisque la langue des signes est inclue à la culture, et parfois la culture régionale peut influencer certains vocabulaires de la langue des signes.
Alors, on parlait des sourds de naissance et de ceux qui le deviennent. C'est forcément plus facile pour un enfant né sourd qui va apprendre cette langue des signes dès le plus jeune âge.
Oui, puisque l'enfant sourd, déjà à la naissance, son cerveau il est programmé à développer le champ visuel. Donc après, une fois qu'il a développé son champ visuel, la langue la plus adaptée, c'est la langue des signes. Et donc après, il va forcément pouvoir s'exprimer avec son corps, avec ses mains, la langue des signes.
Et on couple cette langue des signes avec la lecture sur les lèvres également, c'est un petit plus?
Tout ce qui est par exemple l'oralisation, la labialisation, etc. Ça, c'est un petit plus de l'enfant sourd. Mais principalement, donner la langue des signes à l'enfant, c'est donner le noyau de son identité et de pouvoir s'intégrer mieux dans la société.
Et l'association qui propose ces cours est assez récente, mais il y a déjà des entendants qui ont rejoint les rangs, ou ça reste malheureusement les personnes qui ont ce problème-là?
Non, il y a des entendants qui ont rejoint les rangs. Certains entendants ont mis en place une accessibilité en fonction de leur travail. Par exemple, dans les banques, il y a certains conseillers qui ont fait les cours de langue des signes et qu'après, maintenant, ils peuvent accueillir les personnes sourdes pour utiliser leurs services.
Notre avant-dernier rendez-vous avec David Lacroix, nous parlons de la Maison des Sourds, de cet univers de la déficience auditive. La Maison des Sourds qui est représentante de la Haute-Vienne, mais qui est installée ici à Limoges. On va parler des activités, on l'a dit, vous proposez beaucoup de choses sur le plan vraiment du divertissement, de la détente, parce que c'est aussi une partie très importante de ce que vous proposez. Là, c'est en plusieurs secteurs, on ne fait pas les mêmes activités qu'on soit un senior ou qu'on soit un ado. Donc comment vous avez organisé les choses?
Alors, l'association a pour l'instant 4 secteurs, répartis des catégories d'âge, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a le secteur jeune, là, bien sûr, réservé aux adolescents, aux jeunes qui ont envie de se divertir, se bouger, faire du sport.
Par exemple?
Alors, par exemple, paintball ou laser game ou piscine. Là, c'est vraiment des activités jeunes. Ensuite, il y a l'activité des seniors, bien sûr. Là, c'est plutôt des visites, des repas autour d'une table, des jeux de cartes, des jeux d'atelier mémoire. Donc là, c'est plutôt réservé aux seniors.
Le senior peut aller faire du paintball quand même.
Oui, ben ils peuvent, hein, s'ils veulent, hein, c'est pourquoi pas. Et peut-être les seniors vont battre les jeunes, hein, on sait jamais.
On a lancé le défi. Troisième catégorie.
Le troisième secteur, c'est le secteur loisirs. Donc là, on regroupe tout le monde, se rencontrer, à s'échanger, à faire des fêtes. Bien sûr, on rend hommage à une personne très célèbre dans la culture sourde, qui est l'abbé de l'Épée. Chaque année, au mois de novembre, on lui rend hommage. D'ailleurs, l'année prochaine, on fêtera ses 300 ans de la naissance de l'abbé de l'Épée à Paris. Bien sûr, la fête de l'été, donc autour d'un petit barbecue très sympa, tous ensemble.
Qui réunit aussi, d'ailleurs, les entendants. C'est vraiment un moment vraiment pour se retrouver et montrer qu'on est ouvert à tout le monde.
Ah ben, tous les secteurs sont ouverts à tout le monde. C'est même pas réservé uniquement aux personnes sourdes. Il y a beaucoup de personnes entendantes qui croient que la Maison des Sourds est réservée aux personnes sourdes. Non, elle est ouverte à tout le monde.
Donc, quand on dit communauté sourde, ça vous gêne un peu?
Alors, nous, non. Que nous on dit communauté, ça veut dire on représente un groupe. En France, eux, le mot communauté, c'est un petit peu gênant, puis ça fait penser au ghettoïsme. Alors que les Américains, eux, communauté, ça représente une identité.
Et une fierté d'appartenir à une communauté, justement.
Voilà, c'est ça, une fierté de représenter une identité sourde.
Donc là, on a fait le tour de 3 secteurs, et il nous reste le quatrième.
Le quatrième, c'est le secteur social. Alors, le secteur social, c'est uniquement des gens qui souhaitent participer à des réunions politiques, mettre en place l'accessibilité et informer sur le plan social aux personnes sourdes, par exemple les différentes démarches administratives, sur le plan du travail, sur le plan de l'éducation. C'est vraiment tout ce qui rentre dans le domaine du social.
Enfin, on a compris qu'on passe des bons moments avec vous ici, donc on invite tout le monde à se rapprocher de cette maison des sourds aussi pour se mêler à vos activités et vous découvrir par ce biais-là aussi.
Oui, j'encourage tout le monde à venir.
Et notre dernier rendez-vous avec David Lacroix, nous sommes depuis le début de cette semaine dans l'univers de la Maison des Sourds, de ses déficients auditifs. On va parler de projets, ce qu'on l'a déjà dit, la Maison des Sourds propose énormément de choses, mais a toujours des idées plein la tête, a envie d'aller toujours beaucoup plus loin. Les projets, il y a quoi? Il y a du projet à court terme, moyen terme, long terme?
Oui, alors les projets à court terme, c'est la création d'une section sportive, puisque à l'heure actuelle, il y a la Fédération Française d'Handisport et nous souhaitons mettre en place une petite équipe de personnes sourdes ou entendantes qui souhaiteraient pratiquer à l'heure actuelle le volleyball. C'est la première chose. Après, la pétanque, le bowling, etc. Donc, on essaie d'agrandir au fur et à mesure du temps. Mais s'affilier à la Fédération Française d'Handisport et pouvoir faire découvrir aux jeunes sourds ou pas sourds les activités sportives.
Ça veut dire que c'est le projet à court terme, c'est ce qui va être mis en place dans les prochains temps. C'est ce que vous voulez en tous les cas mettre sur place rapidement. Et donc ensuite, il y a des projets à moyen terme.
Alors, les projets à moyen terme, je citerai plutôt dans 4 ou 5 ans, on peut dire ça comme ça. C'est la création d'une unité d'accueil de soins des personnes sourdes. Puisque la loi du 11 février 2005, que tout établissement recevant du public devrait mettre en place un dispositif accessible aux personnes sourdes et les malentendants. L'hôpital, le centre hospitalier universitaire, rentre dans ce cadre-là et devrait mettre en place un accueil spécifique aux personnes sourdes. Il existe 12 pôles de santé pour les personnes sourdes. Sur le plan géographique, on voit que le Limousin est le trou, un grand trou. Et je participe à plusieurs commissions pour déposer ce projet d'unité d'accueil de soins pour les personnes sourdes, pour que les personnes sourdes puissent être soignées, non pas de leur surdité, mais soigner leur maladie comme tout le monde, tout en communiquant avec leur propre moyen de communication. Il faut que ça se fasse puisque la loi l'impose, il y a un circulaire, il y a des fonds que l'État est prêt à subventionner. Maintenant, ce que j'attends, c'est que les directions des ressources humaines mettent en place ce dispositif le plus vite possible.
Ça veut dire qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible parce qu'on sait que ça va prendre du temps, donc plus tôt on démarre, mieux c'est.
Oui, puisqu'il y a pas mal de personnes âgées qui vont à l'hôpital pour X raisons, que ça soit pour un dépistage de cancer de sein ou que ça soit pour une hernie discale ou quoi que ce soit. Mais la communication avec les médecins a toujours été médiocre. Parfois, les médecins, quand ils rencontrent un patient sourd, la tendance à abréger les choses et partir le plus vite possible parce qu'il ne sait pas comment lui expliquer, alors que la loi précise bien que les médecins devraient garantir que le patient a bien reçu l'information et qu'il a bien compris, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Donc encore beaucoup de choses à faire, donc ça c'est déjà deux gros projets, mais un autre également, là c'est plutôt une façon de se retrouver, on parlait de ghetto à éviter dans les précédents rendez-vous, là c'est vraiment ce que vous voulez aussi, c'est vous ouvrir aux autres.
Oui, s'ouvrir aux autres, et le grand projet à long terme, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le mettre en place, c'est d'avoir un bâtiment qui regroupe plusieurs associations qui travaillent pour la cause des personnes sourdes et malentendantes, et qu'on en retrouve dans un seul bâtiment qui est plus simple pour la société, de pouvoir retrouver un lieu repère et pouvoir demander des conseils pour faire mieux avancer la cause.
Donc ça, c'est des projets donc qu'on va pouvoir suivre. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une expression que vous avez employée souvent pendant cette semaine. C'est se faire entendre. Vous avez envie, en tant que personne sourde, de vous faire entendre avant tout.
Même si nous, on n'entend pas, on a envie de se faire entendre.